Chapitre 3. Une fin de journée sans nuages flamboie sur la grande capitale du Sud. Du haut du palais du Grand Vizir, où nous sommes montés pour voir l'Atlas neigeux, éclairé par les derniers rayons du soleil, on nous montre notre palais, émergeant de jardins ombrageux. C'est celui du Caïd que nous devons visiter demain. Autour de nous s'étendent à perte de vue les toits de la ville. Sur leur terrasse, nous voyons paraître des groupes de femmes en robe claire, des enfants suivis de négresses affairées. À nos pieds s'étendent les terrasses du Mela. Là, les toilettes des femmes sont plus voyantes, plus bariolées, et l'on voit, à la lueur du couchant, l'éclat de leurs lourds bijoux, colliers, fibules, immenses boucles d'oreilles circulaires frangées de perles. Plus loin, d'autres groupes plus pâles, des draperies mauves et vieux roses, déjà estompées par la brume dorée qui flotte sur la ville. Et toutes ces nuances se confondent, se séparent, se recomposent en de nouvelles harmonies, dans le va-et-vient perpétuel des femmes libérées un instant de leur cloître morose. Autour de la ville, l'immense cercle de l'oasis, le tapis bleu-vert et luisant des dattiers, se déroule vers l'Atlas étincelant. Entre l'oasis et les murs rouges, il y a un frémissement de feuillage argenté. Ce sont les grandes oliveraies du sultan qui s'étendent jusqu'aux portes de la ville. Ça et là, plus près de nous, des minarets revêtus de faïence verte, d'où tombe le mélancolique appel à la prière. Et au milieu de la ville, s'élevant au-dessus des coupoles et des minarets, comme en un coup d'aile superbe, l'immense, l'aérienne Koutoubia, qui est la gloire de l'islam. Nous voici le lendemain à la porte du palais que nous voyions hier du haut de notre terrasse. C'est une grande demeure seigneuriale dont nous avons longtemps longé les murs en pisé rouge avant d'arriver à l'entrée. Nous traversons la cohue des clients qui encombrent la place. Riches personnages noblement drapés de mousseline blanche dont les esclaves tiennent les mules blanches scellées de roses, farouches guerriers de l'Atlas ayant sur chaque oreille la boucle en tire-bouchon qui atteste les prouesses militaires, négociants juifs, femmes du peuple guêtrées de cuir, apportant des poules ou du fromage, mendiants étalant leurs plaies et roulant leurs yeux aveugles dans des orbites sanguinolentes, enfin des jeunes gens et des hommes d'allure guerrière flânant sous la voûte et qui sont sans doute de la maison du grand chef. Un personnage d'âge mûr, enveloppé de mousselines immaculées, se montre sur le seuil et toute la troupe s'incline. C'est le chambellan du Caïd qui s'avance à notre rencontre. Nous le suivons le long des frais couloirs d'allées, entre des murs révolus de mosaïques et bordés de bancs en pierre, où des mendiants psalmodient sur leurs nattes. Des ouvriers de fesses, agenouillés sur notre chemin, s'écartent pour nous laisser passer. Patiemment, ils sertissent les cubes brillants, bleus, verts et noirs, dans l'émail blanc des faïences. Car ce palais est tout neuf, comme beaucoup de belles demeures marocaines, et le caïd, grand bâtisseur et respectueux de la tradition, s'occupe à orner sa demeure des mosaïques de fesses dont les ouvriers du Sud n'ont pas le secret. Nous arrivons à une cour intérieure où l'eau bruit et des roses grimpantes enlacent un bosquet de cyprès. Ici, le caïd nous attend. Il accueille avec un sourire amical mes compagnons, un officier français et sa jeune femme qui sont des amis de longue date. Il m'adresse quelques paroles par l'intermédiaire de l'officier indigène qui nous accompagne, puis nous traversons la cour pour gagner la pièce où nous devons goûter. C'est toujours le même décor, la salle longue et étroite dont les arcades s'ouvrent sur le patio de faïence, les matelas recouverts d'un banal coutil rayé, sur lesquels s'entassent les coussins houssés de mousseline. À l'autre bout de la pièce, sur une estrade, un lit en cuivre imitant le Louis XVI cané, et surchargé d'ornements. Des bouquets de fleurs en cire sous des globes allongés, quelques bibelots cosmopolites, des pendules. Et cependant, ce grand seigneur, dont le profil basané, au nez aquilin, à la bouche énergique et sensuelle, aurait pu servir de modèle à Carpaccio ou à Jean Bellini, cet illustre guerrier de l'Atlas possède, dans la montagne, de vieux châteaux forts aux donjons crénelés, où, dans d'immenses cours, ses fauconniers, ses troupeaux et ses meules de slougis s'abritent derrière des remparts farouches. Il vit, une partie de l'année, de la vie d'un prince du Moyen-Âge. Entre-temps, il circule en automobile sur les nouvelles routes françaises, fait de la diplomatie, construit des palais, collectionne des pendules. Nous nous installons sur le divan, on apporte le thé, et tandis que nous causons, je remarque une toute petite négresse, une fillette de 7 à 8 ans, appuyée contre le chambranle de la porte, et qui nous observe immobile. Comme la plupart des esclaves, même dans les plus grandes maisons, cet enfant est presque en haillons. Une gandoura en mousseline sale est drapée sur son pauvre cafetan fané, et sa petite figure est triste profondément. Appuyée contre la porte, elle guette chaque mouvement du maître qui ne la regarde jamais, qui jamais ne lui adresse la parole. Et toujours, elle devine son moindre désir, et, trottant menu sur ses pieds nus, elle remplit la tasse sans qu'il l'attende, nous passe les petits gâteaux blancs ou emporte nos tasses vides. Puis, silencieuse, elle regagne la porte et reprend la même pose, attentive et résignée. Enfin, une grande négresse arrive, loqueteuse aussi, mais souriant de l'éternel sourire du harem. Elle vient nous introduire, monsieur, madame et moi, auprès des femmes du caïd. Nous traversons la cour et, au bout d'un couloir, nous pénétrons dans un patio intérieur, sans parterre de fleurs, mais où murmure l'eau dans une jolie vasque entourée de pigeons. Ici, la même salle à divan donne sur le même dallage aveuglant. Les rideaux de toile s'écartent et un groupe de dames aimables et parées nous accueillent avec empressement. La pièce est quelconque, on a toujours l'impression que les visites sont reçues dans une espèce de parloir officiel et que la vie privée des harems se déroule dans un décor moins banal. Ici, sur les murs nus, pas même de stucs enroulés. Rien que quelques photographies fanées et un peu province, mais qui en disent long sur le passé des aimables personnes qui nous reçoivent. Car ces jeunes femmes, dans leurs cafetans de brocart, ceinturées d'or et voilées de mousseline rose, mauve ou bleu tendre, ces jolies femmes aux coiffures compliquées, aux visages tatoués, aux pieds nus bronzés par le henné, sont les mêmes que nous voyons dans ces photographies en toilette de bal à volant, coiffées à l'européenne et combien gauches et ridicules et heureuses dans leurs costumes d'occidentales affranchies. Ces photographies, c'est le passé, c'est la liberté, c'est presque l'Europe. Car les femmes du Grand Caïd sont des circassiennes élevées à Constantinople où les dames turques circulent presque librement, échangent des vigiles, se promènent dans les bazars, s'habillent à l'européenne. Et dans les beaux yeux peints levés vers ces photographies, quelle nostalgie, que de regrets, mais aussi quelle résignation atavique, quelle acceptation tout orientale du sort que le destin leur réserve. En tout cas, elles sont bien plus animées, plus vivantes que les grandes dames de naissance marocaine, et combien heureuses de causer avec mon amie, dont elles connaissent la belle-sœur, et qui peut, en arabe, leur donner de ses nouvelles. Tandis que j'écoute leur gentil babil, j'essaie de deviner laquelle d'entre elles est la préférée, ou tout au moins la première par le rang. Est-ce la jolie créature au visage rond, habillée d'un cafetan roseté recouvert de gaze bleu pâle et qui porte entre ses bandeaux noirs une perle baroque en ferronnière? Ou bien celle, moins jolie mais plus vivante, plus expressive, qui s'est installée derrière le samovar et surveille les préparatifs du thé? Ou bien encore, la petite brune aux grands yeux fendus, que sa pose langoureuse et son riche cafetan de velours rouge brodé d'or, sur lequel retombent de multiples colliers de perles, transforment en haïdée de gravures romantiques. Ou encore, la grande mulâtresse, si noble et libre d'allure, si splendidement drapée de brocart bleu, voilée de mousseline rose, et que les autres jeunes femmes traitent avec un si amical respect. Comme dans tous les harems distingués, une égalité parfaite semble régner entre ces dames, et il nous est impossible de deviner laquelle d'entre elles dépasse les autres, soit par le rang, soit par la faveur du maître. On a demandé à mon amie des nouvelles de son petit garçon, et elle, en retour, demande à voir les enfants de ces dames. Hélas, il paraît qu'il n'y en a qu'un, le fils de l'épouse morte. Les figures des jeunes femmes s'assombrissent et l'on sent la tristesse glacée de cet intérieur où manque le pullulement des bébés café au lait qui égaye la monotonie des harems. Mais une esclave a apporté l'enfant et tous les bras chargés de bracelets s'étendent pour l'accueillir. Ah, le pauvre petit être! serrée contre le sein d'une de ses mères d'adoption, si maigre et d'une si mauvaise pâleur sous sa tignasse noire et frisée, il ressemble à l'un des maladifs petits Jésus de Crivelli, mélancoliquement appuyé contre les brocards d'une anémique madone. À voir les innombrables amulettes suspendues à son pauvre cou maigre et retombant sur sa chemise, amulettes en corail, en ambre gris, en corne, défenses accumulées contre tant de vieux maléfices occultes, on devine à quel point la santé de cet enfant préoccupe les siens, combien d'espoirs et d'ambitions sont concentrés sur cette face languissante aux grands yeux inamusables.